que nous puissions entendre ce que le Seigneur a à nous dire. Nous allons faire quatre lectures, s'il vous plaît, pour introduire le sujet de ce soir. J'ai donné pour titre à ma prédication « L'école du désert ». Jean chapitre 10, verset 9, c'est un texte qui nous montre que le Seigneur Jésus a des plans bien précis. Jean chapitre 10 et le verset 9, et le verset 9 et le verset 10. Je vous encourage à noter tous les textes que je vous donnerai. Vous pourrez les réutiliser pour votre édification, parce qu'il est quand même aussi dit « Édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi ». Je suis là, bien sûr, comme tous les pasteurs, pour vous édifier, mais vous devez, vous aussi, vous édifier vous-même. C'est écrit ? Oui. Jean chapitre 10, versets 9 et 10. « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. » Ça, c'est un peu la pensée générale de la volonté de Dieu. On est sauvé par Jésus-Christ, on entre et on sort dans les pâturages qu'il a préparés pour nous. D'accord ? Dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Osée, c'est après les grands prophètes, vous savez, Ézéchiel, Daniel, Osée. Dans Osée, on voit que bon, le peuple n'a pas été comme il aurait dû être. Dieu veut le restaurer, Dieu veut lui parler. Dans Osée, au chapitre 2, au verset 16, il y a un verset qui nous montre que il n'y a pas que les verts pâturages. C'est bon les verts pâturages, mais il n'y a pas que les verts pâturages. Et vous allez comprendre pourquoi. Osée, chapitre 2, regardez ce que Dieu dit. C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire dans les verts pâturages. C'est ça que vous avez dans votre Bible ? Je veux l'attirer et la conduire au désert. Et je parlerai à son cœur. Je le relis car c'est quand même sérieux cette affaire. Dieu sait ce qu'il doit faire. C'est pourquoi voici, je vais l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Un peu avant, dans le livre des Rois, on voit une direction de Dieu par rapport à un de ses enfants, un homme qui marche très bien avec Dieu. Un roi, chapitre 17, il y a des étapes avec Dieu. Et nous aussi, nous avons certaines étapes à traverser. Il ne faut pas se louper pour ne pas perdre du temps. Un roi, chapitre 17, Dieu a parlé à son serviteur. Et il va lui demander quelque chose. Un roi 17, verset 2 à 7. La parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. « Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit. » Kérit, ça veut dire séparation, qui est en face du Jourdain. « Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. » Il partit et fit selon la parole de l'Éternel et il alla s'établir près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et il buvait de l'eau du torrent. Mais, au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, et il n'était point tombé de pluie dans le pays, alors la parole de l'Éternel lui fut adressée. Vous gardez ce texte, s'il vous plaît, et nous allons dans le psaume 37. Dans le psaume 37, c'est important ce que nous allons lire, car il y a des temps compliqués avec Dieu. Mais dans ces temps compliqués, n'oubliez pas ceci, on va le lire, 37, 18 et 19. Ce texte complète bien la prédication qu'on va avoir ce soir, même si je n'aurai pas le temps de l'expliquer peut-être. Psaume 37, versets 18 et 19. Retenez bien ce texte. « L'Éternel connaît les jours des hommes intègres et leur héritage durera jamais. » Ils ne sont pas confondus au temps du malheur et ils sont rassasiés au jour de la famine. Regardez bien cette promesse, car nous avons besoin de promesses. Il y a une catégorie de chrétiens qui ne sont pas confondus au temps du malheur, qui sont rassasiés au jour de la famine. Nous sommes dans la maison du Seigneur, Dieu nous a sauvés, Dieu veut nous utiliser. Dieu veut faire de nous des vases utiles. On peut être inutile, les royaumes de Dieu, c'est terrible, c'est terrible. Nous prions tous que ta volonté soit faite. Est-ce que vous vous souvenez le nombre de fois où vous avez demandé à Dieu que ta volonté soit faite depuis que vous êtes chrétien? Combien de fois, oui, Seigneur, je veux une chose, que ta volonté soit faite. Mais si nous prenions le temps de demander à chaque chrétien ce qu'il mette derrière, que ta volonté soit faite, nous aurions certainement des réponses extrêmement différentes. Bon, mais ça c'est normal. À quoi pensez-vous, là, maintenant, quand vous dites, ou quand je vous dis, que la volonté de Dieu soit faite? À quoi pensez-vous? À quoi pensez-vous? Tiens, la volonté de Dieu, ben, c'est que je gagne beaucoup d'argent. Je suis sûr que c'est ça. Est-ce que ça peut être ça? Ça peut être ça. Mais je ne sais pas si ça serait une bonne chose. Vous voyez? En tous les cas, Dieu sait, écoutez-moi bien mes frères, on va partager quelque chose de très simple. Il faut que nous comprenions que Dieu est souverain. Il ne se trompe jamais. Il sait ce qui nous rendra utile. Nous, on veut devenir des vases utiles. C'est certainement la raison pour laquelle nous sommes venus dans sa maison ce soir. Une des raisons pour laquelle nous sommes là, même si on est venu pour chanter, pour la communion fraternelle, pour la prière, pour servir Dieu, parce qu'on l'a fait pendant une heure. Une des raisons aussi, c'est quand même, Seigneur, on veut te connaître davantage. On veut devenir utile. Regardez ce que Dieu a dû faire dans la vie de l'apôtre Paul. Je prends souvent l'écharde dans la vie de Paul. Il l'a rendu infirme toute sa vie pour qu'il soit encore plus utile. Oui ou non? Dieu sait ce qu'il doit faire. Et mes frères et sœurs, il faut bien que nous comprenions ça. Dieu est tout puissant, il est devenu votre Père, et il sait ce qui vous rendra utile. Il le sait. Qu'est-ce que Dieu a dû faire dans la vie d'un certain prince qui s'appelait Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dû faire pour que cet homme à 40 ans soit utile un jour? Qu'est-ce que Dieu a dû faire? Il l'a envoyé dans le désert, 40 ans. Vous pourrez dire, mais ça n'a ni queue ni tête. Il a 40 ans, il est dans la force de l'âge, c'est un homme qui a des connaissances intellectuelles de sagesse et d'écrit, tout ça. C'est là qu'il fallait l'utiliser, c'est à 40 ans, c'est pas à 80. Dieu sait ce qu'il fait. Dieu savait qu'avant qu'il soit vraiment utile par rapport au plan qu'il a préparé, parce que n'oublions pas que les œuvres que Dieu a préparées à l'avance sont différentes. Même s'il y a une œuvre corporative, il y a une œuvre, des œuvres individuelles. Et ça, un chrétien, il devrait le capter, qu'il y a un travail personnel et un travail corporatif. Qu'est-ce que Moïse n'a pas traversé pendant 40 ans? Et puis même à 80 ans, je ne suis pas du tout sûr qu'à 80 ans, quand il gardait des brebis qui n'étaient même pas à lui, je ne suis pas du tout sûr qu'il pensait que Dieu allait l'utiliser à 80 ans. À quel âge il faut avoir pour que Dieu nous utilise? Quel âge avait Moïse? 80? Quel âge avait Samuel? C'est un enfant. Samuel, il a été pris de suite. Oui, il y a des choses qui nous étonnent dans la vie. Samuel a été pris de suite. Dieu nous conduira dans le désert. Dans certains déserts, souvent nous nous y mettons tout seuls. Est-ce que vous savez que parfois nous nous mettons nous-mêmes dans le désert? Vous savez, moi j'ai toujours été étonné dans la parabole de la brebis perdue. Vous connaissez la parabole de la brebis perdue? Vous la connaissez? La parabole de la brebis, il y a une brebis, la centième brebis, qui s'en va. D'après vous, pourquoi elle quitte le troupeau alors que le berger va la chercher? Vous avez vu où il est le troupeau? Est-ce que vous avez déjà fait attention où il est? Regardez avec moi. C'est important quand même. Parce qu'il y a des déserts dans lesquels Dieu va nous conduire, mais il y a des déserts dans lesquels nous nous y mettons. Regardez, c'est dans Luc au chapitre 15. Dieu parle à des religieux, c'est vrai, vous allez me dire c'est à des religieux, mais enfin, soyons intelligents, nous aussi nous pouvons être très religieux. Regardez bien, on n'y fait pas attention, mais cette première parabole est dans un contexte difficile. Cette brebis qui s'en va, pourquoi elle s'en va au fait? Pourquoi il y a des chrétiens qui rétrogradent? Attention, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, mais quand même. Luc 15, verset 3, il leur dit cette parabole, il s'adresse à des religieux. « Lequel d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perdude, ne laisse les 99 autres dans le Donc, le troupeau, il est dans le désert. Il ne faut pas s'étonner que certains décrochent si le troupeau se trouve dans le désert. Vous êtes d'accord avec moi quand même? Le Seigneur, il sait ce qu'il dit, tout est pesé, tout est intelligent. Mais c'est quoi le désert au fait? Puisque la Bible parle si souvent du désert, même si c'est clair, la volonté de Dieu, c'est qu'il nous fasse rentrer dans son royaume pour nous amener dans des verts pâturages. Une brebis, elle n'est pas cantonnée dans une bergerie. Une brebis, elle vit dans les verts pâturages. Même si de temps en temps elle a besoin d'une bergerie, une brebis normale, elle est dans les verts pâturages. C'est quoi le désert? Eh bien, le désert, c'est l'école de Dieu. Alors, c'est pas les écoles comme vous les avez eues quand vous étiez petit. Les écoles avaient des préaux et des maîtresses et des institutrices et des terrains de foot et des cantines, etc. Non, c'est pas la même école. C'est pas non plus le désert avec des scorpions, du sable et des dunes. C'est un désert à la maison. Là-dedans. Dans le cœur. Oui ou non? Est-ce qu'on peut être dans le désert tout en étant dans un confort matériel extraordinaire? Oui, exactement. Et Dieu sait ce qu'il fait. Dieu veut nous parler. Vous le savez qu'il est dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et la suite, vous la connaissez? Et l'homme n'y prend pas garde. Dieu veut parler. Il nous a donné des oreilles. Dans ce but-là, pas les oreilles, je ne parle pas des oreilles physiques, je parle des oreilles spirituelles. Dieu, il veut nous parler. Il y a un temps où Dieu veut nous parler. Il y a un temps où nous, on doit parler. Il y a un temps où on doit faire silence, comme on l'a chanté, pour écouter. Il faut permettre à Dieu de nous parler. Parce que des fois, on est vraiment en contradiction totale. Seigneur, parle-moi. Mais nous ne prenons pas le temps de l'écouter. Je crois que c'est sérieux. Nous chantons des cantiques plus beaux les uns que les autres. Jésus, je pensais ce matin, en préparant cette prédication, ce cantique, il y a longtemps qu'on ne l'a pas chanté. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. C'est un vieux cantique qu'on a eu chanté quelquefois. Nous te proclamons roi. Est-ce que Jésus est vraiment le roi de notre Église, le roi de notre cœur? Élie a traversé un désert, Moïse a traversé un désert. Même Jésus-Christ a dû commencer son ministère en étant 40 jours dans le désert. Ça fait partie de la vie, ne nous triturons pas l'esprit, ça fait partie de la vie. Même le Seigneur Jésus a appris l'obéissance au travers de ces choses. Élie a été conduit dans le désert, Élie était un homme de la même manière que nous, et il savait ce que... Écoutez-moi mes frères et sœurs, Dieu savait très bien ce que Élie traverserait un jour. Quand Élie lui demande la mort, vous savez qu'à un moment donné, Élie, il n'y a que lui qui a fait ça, je sais. Élie demande la mort à Dieu. Je ne suis pas meilleur que mes pères, reprends-moi, il veut mourir. Dieu aurait pu lui dire, écoute, ça tombe vraiment mal, parce que tu ne mourras même pas. Est-ce que Dieu aurait pu le lui dire? Est-ce que Dieu aurait pu lui dire, écoute, Élie, ça, vraiment ça ne va pas aller, parce que tu vas être enlevé, tu le connais. Est-ce, il aurait pu le lui dire ou non? Il n'a pas dit. Dieu n'est pas obligé de tout nous dire. Quand Dieu va faire quelque chose, il ne nous envoie pas un texto pour nous dire, voilà ce que je vais faire. Dieu, il ne dit pas les choses comme ça. Dieu savait par contre qu'un jour, il se trouverait seul devant le roi Achab, devant la reine Jézabel. Et il savait pour cela qu'il avait besoin de toute une préparation. Et vous ne savez pas ce à quoi Dieu vous prépare. Vous ne le savez pas. Notre sœur Natacha, dans sa prière tout à l'heure, disait à juste titre qu'il fallait demander au Dieu le feu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Seigneur, ce que mon cœur réclame, c'est le feu. Pourquoi demande le feu du Seigneur, en fait? Pourquoi on demanderait, Seigneur, que ton feu m'envahisse, que ta présence m'envahisse? Pourquoi? Mais parce qu'il y a des choses que Dieu a préparées à l'avance. Alors, je vous avais demandé de garder la page d'un roi, d'accord? D'un roi 17. Élie aurait pu dire, vous voyez, quand on nous demande quelque chose, on a des réactions, mais non, ma place à moi, elle est auprès du roi. Je dois être dans le palais d'Akab, il faut que je lui parle. Et Dieu lui dit, non, d'abord, tu vas te cacher. Cache-toi près du torrent de Kérit. Vous voyez, Élie était un homme de la même nature que nous, mais bon, même s'il a fait une impasse, parce que la fatigue peut nous amener à faire des erreurs. Je pense qu'Élie, enfin on ne connaît pas tout, mais Élie était fatigué, physiquement. Il était très fatigué. Vous savez, la fatigue, ça peut nous jouer des tours. Vraiment. Je ne sais pas le sujet de ce soir, mais je suis convaincu que cet homme était fatigué physiquement, avec tout ce qu'il avait fait. Dieu savait ce que Élie devrait un jour affronter. Dieu sait ce qu'un jour tu devras faire pour lui. Tu dis, mais moi je sais rien. Oui, mais justement, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce que... Je vais prendre un exemple simple. Est-ce que par exemple, dans 8 jours, vous pouvez témoigner, Dieu peut mettre sur votre chemin une personne qui est à 2 doigts de se suicider? Est-ce que c'est possible? Là, dans le métro, là, chez le boucher, au grand centre commercial, en train d'acheter un petit livre pour vos enfants, est-ce que Dieu peut vous mettre quelqu'un? Vous voyez? C'est facile à comprendre, ça, parce que c'est la vie. Des choses où Dieu veut nous préparer. Et c'est pour ça qu'il veut pouvoir nous parler. Qu'est-ce que c'est la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, si le Seigneur te dit, cache-toi quelques instants. On le voit dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, à des hommes de Dieu comme Jérémie, ou même à tous les chrétiens. Entre dans ta chambre et ferme ta porte, c'est ça, cache-toi quelques instants. Je veux te préparer pour cette personne que tu vas rencontrer dans 8 jours. C'est vrai que Dieu ne nous l'envoie pas directement, mais il a quand même une sensibilité, il y a des choses qui font partie de la vie. Dans quelle situation va-t-il me placer? Peut-être je vais avoir un nouveau travail, peut-être je vais déménager dans une autre ville, etc. Qu'est-ce que je vais faire? Moïse, qu'est-ce qu'il a dû penser pendant les... Franchement, 40 ans dans le désert. Vous ne trouvez pas que c'est un peu disproportionné pour la formation? Sérieusement, 40 ans dans le désert. Jean-Baptiste, il a travaillé... Combien de temps il a travaillé, Jean-Baptiste? Pour le Seigneur, en fait. Maximum 3 ans, puisqu'il est mort. Je pense même pas 3 ans. Toute une préparation. Et vous avez vu comment il est mort? Mais il y avait toute une préparation. Dans le désert, il a servi dans le désert. Et Dieu dira que c'est le plus grand homme qui a existé. Pourtant, il n'a fait aucun miracle. Mais il a préparé le chemin du Seigneur. Vous savez, ce qu'on fait là, mine de rien, si on est sérieux, on sait aussi que l'on travaille à préparer le retour du Seigneur. Oui ou non? Par la prière, par le fait de continuer à évangéliser, le fait de continuer à édifier l'Église, etc., etc. On prépare, nous aussi, l'enlèvement de l'Église. C'est un grand travail. Moïse a été caché, oui, caché, 40 ans dans le désert. Élie a été caché à peu près 3 ans dans le désert. Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? La rentrée arrive. Il y a ma famille, c'est vrai, c'est une priorité. Est-ce que c'est important la famille? Oui, il y a ma famille, peut-être que ma famille ne veut pas de Dieu, donc Dieu va vous orienter peut-être autrement. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mon âme en silence se tient devant toi. Oh, rends-moi sensible à ta présence. Se cacher, alors pourquoi Dieu a caché Élie? Pourquoi? Moi, je pense que Dieu voulait le protéger, parce que Dieu nous protège aussi. Vous croyez que Dieu nous protège? Dieu nous protège. Il faut savoir comprendre que Dieu nous protège. On le voit plusieurs fois, je ne vais pas prendre les exemples parce que le temps me manque, mais le Seigneur nous protège et le Seigneur nous forme. Vous savez, le Seigneur nous protège de certains dangers. Il ne faut pas oublier quand même qu'il y a des dangers que nous ne percevons pas dans l'invisible. Vous savez, le nombre de fois où Dieu nous a gardés en voiture, on serait étonné si Dieu nous montrait le nombre de fois où Dieu nous a gardés en voiture, même si vous conduisez très bien, je le comprends. Alors, c'est pour ça que j'ai pris ce verset dans le psaume, que même dans les déserts, dans la famine, et vous avez vu ce verset que j'ai pris, c'est très important. Dans le psaume 37, où j'ai lu, dans le psaume, vous rappelez, je ne le cherchais pas, les hommes, les chrétiens, les fidèles, sont protégés, ils ne sont pas confondus au temps du malheur. Ils sont rassasiés au jour de la famine. Mes frères et sœurs, on vit des temps difficiles. On vit des temps très difficiles. Nous sommes dans les temps de la faim. Nous sommes dans des temps compliqués. Nous sommes dans des temps affreux, difficiles. Les gens sont rebelles. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Vous connaissez la liste terrible du caractère des hommes à la fin des temps. Mais il ne faut pas oublier que les promesses de Dieu sont irrévocables. Les promesses de Dieu, elles sont là. Il y a des situations difficiles et Dieu protège pendant ces temps-là, protège du malheur, et même s'il y avait de la famine, il gardera ses enfants. Soyons fidèles, mes frères et sœurs. Il vous gardera jusqu'à la fin. Au bout d'un moment, le torrent a été à sec. Alors, il y a un grand enseignement dans cette histoire, c'est que Dieu dit « cache-toi, je pourvoirai ». Alors, c'est vrai que c'est bizarre, cette histoire. Pourquoi Dieu a utilisé les corbeaux? Je suis sûr que ça, il a dû tiquer. Quand il a dit les corbeaux, parce que les corbeaux, quand vous lisez dans le Lévitique, je l'ai marqué, c'est dans le Lévitique 13, 11, ça fait partie des animaux impurs. Vous voyez, il y a des choses bizarres. Vous ne croyez pas qu'il y a des choses bizarres? Est-ce que Dieu n'aurait pas pu utiliser des oiseaux purs? Il y a des choses qui peuvent nous étonner. Vous savez, avec Dieu, c'est parfois pas toujours évident. Dieu a utilisé des animaux impurs pour pourvoir. Mes frères et sœurs, ne calculons pas les choses. Laissons Dieu nous aider à lui obéir. Et puis, à un moment donné, le torrent était à sec. Est-ce que Dieu contrôle toutes les sources du monde? Est-ce que cette source aurait pu jaillir continuellement? Ben oui. Il l'a fait cesser. Pourquoi? Parce que Dieu voulait l'amener ailleurs. Et c'est ça l'école. C'est qu'il y a des étapes. Il y a des temps où le Seigneur fait couler son torrent. Il nous dit, voilà, c'est une étape. Et à un moment donné, il permet que le torrent sèche. C'est pas un jugement, il y a des situations. Nous, on est tout le temps dans la culpabilité. C'est vrai qu'on nous a pas aidés, en fin de compte. Est-ce que c'est pas facile de culpabiliser les gens? Ils traversent un truc, paf, ben si t'avais fait attention, tu ne serais pas là. C'est bizarre comment on a du. Dès que quelqu'un est dans l'épreuve, on a tendance à lui dire, ben t'avais qu'à faire gaffe. C'est malheureux quand même. Et on le fait pour soi aussi. Parce qu'on est tordu. Ça s'appelle être tordu. En tous les cas, on ne se rend pas service. Dimanche, je prêchais sur les frères aînés. Vous avez eu ce mauvais état d'esprit lorsque certaines choses sont conduites par le Seigneur. Donc Dieu permet que des choses sèchent, s'assèchent, pour nous amener ailleurs. Je parlais tout à l'heure d'un changement de travail, une nouvelle orientation, une mutation, même dans l'église. Tiens, Dieu m'a amené dans cette église, dans cette ville de Toulouse. Tiens, il m'oriente ici. Pourquoi? Vous croyez bien que Dieu sait? Est-ce que Dieu nous oublie? Moi, j'ai eu combien de fois, oui, Dieu m'oublie, je suis sûr que Dieu s'occupe plus de moi, j'ai dû trop pécher, tout ça. C'est vrai que quand on pêche, on peut tourner en rond, ça c'est clair. Mais n'oubliez pas que Dieu donne et que Dieu peut retirer aussi. C'est écrit dans la Bible. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni, c'est écrit, je fais vivre et je fais mourir, je blesse, je guéris. Dieu règne. Est-ce que Dieu règne? Il règne surtout. Alors je prends ce verset dans Ésaïe 41, verset 14. Si on disait, l'Éternel m'abandonne, le Seigneur m'oublie. Est-ce que vous avez déjà pensé ça une fois dans votre vie, le Seigneur m'a oublié? Dans la vie, beaucoup de chrétiens disent, le Seigneur m'oublie. Dieu peut pas vous oublier. Et d'ailleurs, il va utiliser cette image. Il dit, même si une femme abandonnait son enfant, oubliait son enfant, moi l'Éternel, je ne vous oublierai jamais, je vous ai gravé sur mes mains. C'est comme ça. Soyez rassurés, Dieu ne peut pas vous oublier. Vous êtes continuellement sous son regard. Il sait où vous en êtes, il sait ce qu'il fait. Il pourrait vous dire, mais je sais où tu en es. Toi, tu ne sais même pas où tu en es sur le chemin. Tu ne sais même pas où tu en es. Il y a David dans un dit, toi, tu connais mon sentier. Des fois, on ne sait même pas où on en est. Vous savez, quand on dit, on rame. Vous savez, il y a des gens, des fois, je ne sais même plus où j'en suis. Mais ne soyez pas trop inquiets pour ça. Je vous le dis franchement, Dieu, il sait où vous en êtes. Il sait où vous en êtes. Faites-lui confiance. Dites-lui, Seigneur, tu vois, tu m'as amené 3 ans là, dans cette situation. Maintenant, il y a une nouvelle situation. Oui, je comprends que tu es en train de me former, de me préparer. Tiens, je devais rester. Je vois, moi, je vois des familles ici qui sont venues, par exemple, pour un an. Et ils sont restés 3 ans. Moi, j'ai vu des frères qui sont venus ici pour être, vous voyez, je pense à M. Catéco, vous voyez, qui est revenu. M. Catéco, il était venu pour un stage de 2 ans dans sa formation professionnelle. Et j'ai bien vu de suite que Dieu l'avait amené ici, pas pour sa formation professionnelle, même si c'était très important. C'était pour sa formation spirituelle. Vous voyez? Et si vous êtes là ce soir, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur, il savait que vous seriez là. Il sait où vous en êtes. Si vous savez pas trop où vous en êtes, ne vous affolez pas. Le Seigneur, il sait. Et il ne se moque pas de vous. Vous croyez que Dieu se moquait de Moïse? Parce que 40 ans, ça en fait des nuits. À se coucher le soir et à se gratter la tête en se disant « Est-ce que je ne me suis pas trompé en fuyant ?» Parce que aussi, on a tous eu fui des situations. Non, le Seigneur, il règne. Vous savez, il y a des choses qui nous... Moi, il y a des choses, quand je lis la Bible, plus je lis la Bible, plus je me dis... On peut penser que Dieu nous a oubliés. Quand Paul a été, ce matin, je lisais, quand Paul a été lapidé à Lystre, il a été laissé pour mort. Je dis, bon, c'était quand même compliqué. On pourrait se dire, tiens, au niveau du torrent qui a séché, c'est quand même mon cas. Mais regardez ce qui s'est passé après. Quand Joseph a été jeté comme malpropre dans une prison, alors qu'il venait d'obéir, il aurait pu dire, le torrent s'est asséché. Est-ce que vous croyez que Dieu veillait? C'est ça, là, le repos. Vous savez que moi, c'est un peu mon sujet de prédilection, le repos, je vous donnerai du repos. Et je crois que le but de cette exhortation, c'est de vous dire, oui, tu es capable de me conduire au désert, pas pour me juger. Il n'y a pas de jugement. Nous, on est là, dans le jugement, on est vraiment en difficulté. On devrait être dans cette grâce de dire, Seigneur, oui, comme disait Antoine dans la présentation des chants, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu ne se moque pas de nous. Croyez-moi, Dieu ne peut pas se moquer de nous. Mais il sait où j'en suis au niveau. Si je suis charnel et que Dieu veuille faire avec moi une œuvre spirituelle, il va me dépouiller de cet aspect charnel. Oui ou non? Vous le comprenez? C'est quoi la maturité spirituelle, en fait? Parce que bon, voilà, vous allez là, on entre dans les grands sujets. La maturité spirituelle. Aujourd'hui, bon, dans les églises, je ne sais pas si c'est le grand sujet à l'ordre du jour, mais en tous les cas, bibliquement, c'est à l'ordre du jour. La maturité spirituelle, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la maturité spirituelle? Eh bien, c'est être apte à être employé par Dieu. Quand quelqu'un est formé et qu'il est apte à être employé par Dieu, qu'il soit utilisable ou qu'il soit à l'écart, il est dans la maturité spirituelle. Ça, c'est très important. Beaucoup de chrétiens ne sont jamais rentrés dans le repos. Ça, c'est quelque chose, moi, qui m'afflige, franchement. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à vivre dans le présent. Notre corps vit dans le présent. Notre corps. On est obligé, de toute façon, on ne peut pas faire autrement. Notre corps, il suit les journées. Mais spirituellement, psychologiquement, intellectuellement, nous sommes à la fois dans le passé. Et est-ce qu'il n'y a pas des gens qui vivent que du passé? Est-ce qu'il n'y a pas des gens qui sont tout le temps nostalgiques du passé? Ils vont prendre une photo. Ah, tu regardes, c'était le bon temps. Ils sont tout le temps là. Et dans 10 ans, s'ils prennent une photo de la journée d'aujourd'hui, ils diront pareil. Mais ils vivent dans le passé. Nous avons la faculté, c'est pas forcément bon, mais Dieu nous a laissé libre, de vivre à la fois dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Oui ou non? C'est clair. Dieu ne nous dira pas quelle est la prochaine étape. Nous, on aimerait savoir. Vous n'aimeriez pas savoir, tiens, je vais me marier. Imaginons, je suis célibataire. Tiens, je vais me marier avec... Ah, j'ai reçu un texto du Seigneur. Albertine, elle s'appelle. Voilà. Est-ce que vous aimeriez savoir, les jeunes célibataires, avec qui vous allez vous marier? Non? Leslie, vous aimeriez savoir? Non? Ça y est, vous allez. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce qu'on n'aimerait pas parfois savoir ce que Dieu va faire? Oui ou non? Vous, on aimerait savoir. Alors, nous ne connaîtrons pas l'avenir, Dieu ne veut pas. Mais par contre, nous devrions connaître les promesses de Dieu. Ça, quand même, ça devrait nous remplacer tout le reste. Peut-être lire, moi je suis à fond sur l'équilibre. Vous voyez, dimanche, on a vu une recommandation. Jésus leur recommanda deux. On a vu une recommandation. Mais quand même, je crois que nous serions très, très, très enrichis si nous comprenions les promesses de Dieu. Je le répète, un torrent asséché, ce n'est pas un changement de Dieu, un jugement de Dieu, c'est une nouvelle direction. Une situation qui est en train de s'assécher n'est pas un jugement. Ça peut l'être s'il y a eu péché, bien sûr. C'est pour ça que nous devrions prier pour avoir du discernement. J'en ai parlé dimanche matin, la colère qui peut être l'épuisement, mais la colère aussi qui peut être parce qu'on n'est pas content de ce que Dieu a fait. Je le répète, quand Joseph a été jeté en prison, quand Paul a été
lapidé à Lystre. Vous le lirez dans Acte 14 pour ceux qui méditent ces méditations. Vous regarderez comment c'est bizarre, comment il y a de nouvelles orientations après des grosses épreuves. De nouvelles directions de Dieu. Moi, je crois que même pour l'Église, il peut y avoir de nouvelles directions. Une nouvelle équipe, il y aura Jérôme qui va m'aider dans le fonctionnement de l'Église, Monsieur Catéco qui va travailler pour l'évangélisation, avec toute une équipe qui va s'investir, notre frère Michael Guillem qui rentre comme pasteur en formation, avec toute une équipe également, va travailler. Moi, je crois qu'il y a une nouvelle direction dans l'Église. Mon ministère qui prend une nouvelle orientation par rapport au nouveau mouvement, etc. La direction de Dieu, la formation de Dieu, qu'est-ce que je suis en train d'apprendre? Si je vis un jour à la fois, qu'est-ce que je suis en train de... Est-ce que Dieu veut m'apprendre à renoncer à l'orgueil? Est-ce qu'il peut y avoir de l'orgueil dans mon cœur? Est-ce qu'il peut y avoir dans mon cœur un manque d'humilité? Est-ce que je dois apprendre à travailler la soumission? Est-ce qu'un chrétien doit apprendre la soumission? Est-ce que c'est important la soumission? Vous vous rendez compte que, non mais franchement, quand on voit Jésus qui dit « je ne fais rien de moi-même », n'oublions pas quand même qu'il est le Seigneur du ciel et de la terre. J'apprends à bannir la peur. Est-ce que ça doit s'apprendre à bannir la peur? Vous savez, ce matin en méditant, parce que moi, un mot me vient, je focalise sur une vingtaine de textes, par exemple. Et je regardais tout ce que Paul a appris. Cet homme qui recevait des révélations en veux-tu, en voilà. Tout ce qu'il a appris. J'ai appris à vivre dans l'abondance, j'ai appris à vivre dans la disette. C'est impressionnant tout ce que Paul a appris. J'ai appris à être content dans l'état où je me... Il l'a appris de collègues. Il y a des choses, il a reçu des révélations, mais n'oublions pas que nous nous instruisons les uns les autres, nous nous exhortons les uns les autres, c'est ce que nous devrions vivre en permanence d'ailleurs. Instruisez-vous les uns les autres, etc. Même les cantiques devraient nous instruire. Instruisez-vous par des cantiques. Apprenez à marcher par la foi. Qu'est-ce que Dieu est en train de m'apprendre? Ce matin, je pensais à ce verset que les femmes âgées doivent apprendre les jeunes femmes à devenir de bonnes épouses. Mais peut-être que les jeunes, mais moi, j'ai pas besoin des vieilles pour apprendre. Et moi, je crois qu'on a vraiment besoin les uns des autres. Qu'on a tous besoin d'apprendre les uns des autres. Et si on accepte ces choses, vous voyez, le peu que je viens de vous dire, si on le fait d'une manière intelligente, eh bien, on pourra vivre ce que David dit dans le psaume 37, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Car c'est ça que l'on veut, on veut que Dieu agisse. On ne veut pas que Dieu soit obligé de nous maintenir dans le désert parce que nous n'arrivons pas à écouter. Dieu a un désert, il peut durer 3 ans comme pour Élie, il peut durer un peu plus, 40 ans comme pour Moïse, Abraham ça a duré que 25 ans. Dans tous les cas, mes frères et sœurs, je voudrais que nous le comprenions bien. Dieu ne se moque pas de nous. Dieu sait ce qu'il fait. C'est vrai qu'une classe, on peut la redoubler. Combien de fois peut-on redoubler une classe avec le Seigneur? Ben, le temps qu'on apprenne. Vous savez, quand Dieu dit aux Hébreux, vous devriez être des maîtres et vous êtes des enfants. Ça fait mal au cœur quand même. Vous devriez être des maîtres, c'est-à-dire des gens capables d'enseigner les autres, et vous êtes des enfants. Et vous ne pouvez même pas supporter de la nourriture solide. Que le Seigneur nous aide à déjà peut-être... Vous savez, moi je lis la Bible en boucle, et je m'arrête sur un sujet par exemple, tout en lisant. Peut-être la prochaine fois que vous allez relire la Bible en entier, dire tiens, je vais surligner, méditer, toutes les promesses, il y en a quand même des milliers. Est-ce que ça vaut pas la peine quand même? Je ne connaîtrai jamais l'avenir. Je ne sais pas ce que tu as préparé, ce que tu vas faire de moi demain. Peut-être que vous allez rencontrer le roi Akab. Vous ne croyez pas qu'il fallait me mettre prêt pour rencontrer la reine Jézabel? Voilà la préparation d'Élie. Vous ne savez pas, mais moi je ne vaux rien. Mais ne parlez pas comme ça, ça ne sert à rien. On vaut tous, on vaut rien. Par nos propres forces, de toute façon, on ne peut rien faire. Mais tiens, si le Seigneur avait un projet pour moi, que Dieu ne soit pas obligé de dire ce qu'il a souvent dû dire, j'ai cherché et j'ai trouvé personne. J'ai appelé, il n'y avait personne. J'ai regardé, il n'y avait personne. Quand vous mettez toutes les fois où Dieu utilise cette parole, ça fait quand même un peu de peine. Que Dieu, quand Dieu regarde Toulouse, j'ai trouvé Toulouse-Saint-Agne. J'ai trouvé Colomiers. vous n'aimeriez pas? Eh bien, acceptons. Seigneur, je vais apprendre ce que j'ai besoin d'apprendre. Tu permets que je traverse un désert? Bon, mais je n'ai pas envie d'y rester longtemps. D'ailleurs, on va terminer avec ce texte que j'aime, qui est là, coincé dans le livre des Cantiques. J'aime ce texte. Vous ne pouvez pas savoir comment j'aime ce texte, parce qu'il résume bien la pensée. Alors, c'est Cantique des Cantiques, chapitre 5, je crois. Non, pas 5, c'est... Chapitre 5... Alors, attendez. 8, oui, chapitre 7, non, 8, pardon, verset 5. C'est un texte que j'aime, c'est une question en plus. Vous savez que les questions, il faut y répondre. Enfin, quand on est sérieux. C'est une question que j'aime beaucoup. Parce qu'elle indique la solution, en vérité. La solution pour sortir d'un désert, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une. On la lit, cette question ? Cantique des Cantiques, chapitre 8, verset 5. Qui est celle qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Si nous voulons sortir du désert, il n'y a qu'une solution. Il faut que nous soyons appuyés sur le Seigneur Jésus. Un peintre pourrait nous faire un tableau merveilleux de ce verset. Vraiment merveilleux. Dans le brouillard, je ne sais pas quoi. Cette personne qui sort du désert, appuyée sur le bien-aimé. Alléluia. Voilà la solution. Il n'y en a qu'une. Nous resterons dans le désert tant que nous ne serons pas appuyés sur Jésus-Christ. Et moi, je vous propose qu'on lui demande de l'aide. C'est malheureux que Dieu soit obligé de dire, je vais la conduire au désert. Mais il ne nous conduit pas au désert pour qu'on y reste. Il conduit au désert pour qu'on en sorte. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on prie d'une manière sérieuse, parce que des fois on prie, on termine la réunion en priant, bon, on va faire une prière, d'accord. Mais est-ce que quand même, il y a quelqu'un qui pourrait dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que tu as prévu pour moi? C'est la rentrée? Oui, il y a des changements. Oui, il y a un torrent qui s'achève. Il n'y a pas de changement, Michael, dans votre vie, là, en ce moment? Vous voyez, il y a des changements. Est-ce que ça ne vaut pas la peine de bien les gérer? Ben oui. Mais ce n'est pas que pour Michael, c'est pour tous, pour tous les chrétiens. Des changements où on va se préparer à faire les œuvres que Dieu a préparées. On lui demande de l'aide. On ferme les yeux. Vraiment, vraiment, sincèrement, vous savez, du regard au cœur. Du regard au cœur, s'il nous voit sortir de l'église appuyé sur le bien-aimé. Ou si on attend juste la prochaine réunion pour avoir un sermon supplémentaire. Demandons-lui de l'aide. Vous le savez, il n'oublie personne. Personne.